Notre invité ce matin nous présente son livre « Tatoué sur le cœur ». Francine Laplante, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Préface de Guy Daliberté.
Mais oui.
Il vous appelle la vendeuse de salade. Comment vous l'avez connu? C'est arrivé de quelle façon?
Mais c'est arrivé par pur hasard parce que j'accompagnais un jeune qui était Nicolas, qui avait eu un cancer à l'âge de 9 mois, une récidive à 5 ans, qui avait développé la sclérodermie, la maladie qui fait vieillir rapidement. Et Nicolas, c'était un enfant roi. Donc, ses parents, c'était des gens d'affaires qui n'avaient pas besoin de Francine Laplante dans leur vie pour aider Nicolas. Mais à un moment donné, à un de mes galas, parce que j'organisais un gala tous les années pour le... J'avais besoin de quelqu'un qui témoigne. Puis Nicolas avait 15 ans à l'époque. Et puis, j'ai demandé à mon amie de la salle de jeu, Caroline. J'ai dit, Caroline, qui pourrait venir témoigner au gala? Elle me dit, moi, j'ai quelqu'un pour toi, mais je te dis, il se prend pour un autre. C'est un enfant roi. Puis c'était vraiment un enfant roi. Je suis rentrée dans la salle, puis j'ai dit à Nicolas, j'ai un défi pour toi, mon grand. Il dit, quoi? J'ai dit, tu vas venir témoigner à mon gala. T'sais, tu vas venir nous montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Parce que Nicolas, il avait tendance à être... C'est un enfant roi, là. Papa, maman, c'était de même. T'sais. Il demandait de quoi, il y avait tout. Et puis, il est venu témoigner à mon gala. Nicolas, c'était... M. Arcand, c'était un enfant qui pouvait faire peur parce qu'il n'était pas beau. Il avait la maladie de la sclérodermie, donc c'est un enfant momie. Et avec moi, j'avais pas pitié de lui. Hein. Moi, je lui disais, garde, go, puis tu parleras pas de même à ta mère, puis tu vas être fin. Puis on a commencé à faire des conférences ensemble suite au gala et tout ça. Puis à un moment donné, il est devenu un peu le porte-parole de la Fondation après avoir témoigné deux fois à un de nos galas. À un moment donné, on avait comme préparé le stage du... Il a tout déformé, M. Arcand, ce qu'on devait se dire en avant. Et là, il s'est mis à dire, ben toi, Francine, t'es dépassée par les événements. T'es rendue un peu vieille. Fait qu'il faudrait que ce soit moi qui reprenne. T'sais. Fait que tout ça a fait ça que le monde... Puis c'était vraiment pas stagé, là. C'était vraiment... J'ai dit, Nicolas Marchand, tu te prends pour qui, toi? Puis là, finalement, en descendant son fauteuil roulant de la scène, j'ai remarqué une grosse tache dans son cou. Quand je suis allée voir sa mère, j'ai dit, Lily, c'est quoi ça? Puis là, elle m'a dit, Francine, je le sais pas, on voit le médecin mardi. Le mardi, après le gala, le diagnostic est tombé, cancer de la peau. Ça a été virulent. Et on a commencé à écrire le livre de la vie de Nicolas. C'est ce qu'il voulait faire. Puis c'est en 2009, l'année où Guy de la Liberté est allé dans l'espace. Et Guy de la Liberté avait mis son nez. On sait tout le setup qu'il avait fait. Puis Nicolas, il adorait Guy de la Liberté de par tous ses...
Le cirque, puis...
Tous ses accomplissements. Et quand Nicolas est décédé en 2010, la semaine qu'il est décédé, il a dit à son père, « Papa, amène-moi un nez de clown, un nez. » Il a mis le nain, puis il a fait un signe de peace, puis il a dit ça, c'est mon dernier au revoir à tout le monde. Il a envoyé ça sur ses réseaux sociaux. Et moi, j'avais toujours le livre de Nicolas, qui avait été écrit par une journaliste, mais qui n'était pas terminé. Puis on sait, M. Arcand, qu'un livre qui est d'une personne morte qui s'appelle Nicolas Marchand, il n'y a personne qui veut éditer ça. Là. Et moi, le gala, 2 ans plus tard, j'ai décidé d'offrir un livre à tous les invités. Il y avait quand même 1000 invités. Et j'ai lancé dans Cyber Info, Cirque du Soleil, demande à Guy la Liberté pour faire une vidéo sur Nicolas. J'ai pas eu de nouvelles 2 jours avant le gala. Son adjointe m'a appelé, m'a dit, Madame Laplante, la vidéo y est faite. Où est-ce qu'on l'envoie? C'était le moment le plus beau de ma carrière de philanthropie. Pourquoi? Parce que c'était tellement beau, c'était tellement simple. Il était assis sur le bord de sa fenêtre en expliquant c'était quoi le nez. En expliquant l'importance de, tu sais, je sais pas t'es où Nicolas, mais quand on a un nez, tout le monde est égal. Tout le monde est. Et à partir de ce moment-là, ben j'ai eu la chance de rencontrer Guy de la Liberté 1 fois, pas 2 fois, excusez. On n'est pas les meilleurs amis du monde, on faut s'entendre, on saute pas ensemble à toi. Puis
non, mais il a quand même pris le temps d'écrire la préface de votre livre.
Puis vous savez une chose, c'est qu'il a jamais fait ça. C'est la première fois qu'il fait ça. Puis je suis qui, moi, Francine Laplante, là?
Ben justement, on va le découvrir un peu, si vous le voulez, ce matin. Parce que, d'abord, je dois vous dire, en lisant votre livre, je vous le disais tantôt, là, j'étais épuisé pour vous. C'est-à-dire que vous avez une vie intense, là.
Ouais.
Famille nombreuse.
Oui.
La dernière de 12.
Je suis la dernière de 12 enfants. Mon père est décédé, j'avais 11 ans, laissant maman veuf avec 12 enfants à 47 ans.
Puis là, ça veut dire aller à l'école, ça veut dire travailler au marché Jean Talon, puis c'est la navette.
C'est travailler tout le temps. Nous autres, c'était travailler. Puis ce qu'on faisait dans nos temps, c'était travailler. Mais je tiens vraiment à dire que, M. Arcand, on n'a pas eu une vie de misère, dans le sens que on a eu une bonne vie. Ma mère, mon père, c'était du bon monde. On n'a jamais connu c'était quoi l'inceste, la violence physique, la violence verbale. On avait toujours un gâteau à notre fête. Comment ma mère faisait, j'en ai aucune idée. Nos frères, nos sœurs, on a toujours été choyés, malgré tout, mais on a travaillé. Puis je vous dirais que c'est trop. C'est trop pour un enfant, travailler comme ça.
Je regardais, là, vous décrivez ça, là, c'est du soir au matin, mais ça a pas d'allure. Là.
Ouais, ouais. Moi, ce qui a été la grande chance de ma vie, c'est d'aller, de décider d'aller au cégep. Parce que je n'étais pas bonne à l'école, là. Je travaillais tout le temps. Fait que tu peux pas travailler 40 heures semaine, aller à l'école. Ça. J'ai décidé de faire un scolaire 6 qui m'a permis d'aller au cégep. Quand je suis arrivée au cégep, c'est là que j'ai compris que tabarouette, mathématiques intégrales, c'est pas si dur que ça. Puis si, c'est pas si dur que ça. Puis là, je suis rentrée en criminologie dans un département très contingenté, en travaillant toujours toutes les fins de semaine, tout ce qui pouvait se faire. Puis mes prêts et bourses, ben je les signais pour les donner à ma mère. C'était ça, c'était comme... Et je suis la seule de ma famille qui a eu un diplôme d'études secondaires, cégep université. Malgré que mes 11 frères et sœurs ont bien réussi dans la vie, là. Mm-hmm. Mais je suis la seule parce que c'était pas une priorité. La priorité, c'était quoi? C'était manger.
Puis, je vais citer votre mère, je pense, qui dit qu'avec votre père, c'était l'amour comme dans un film.
Oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, on a toujours la même pensée de 12 enfants. Parce que ma mère était catholique, elle était religieuse. Catholique, elle croyait. Mais elle vous sortait tous les mots de l'Église possibles et inimaginables dans toutes les circonstances. Puis à un moment donné, je me souviens très bien, j'étais assise au pied de sa chaise berçante. Puis on écoutait un film, puis j'avais dit, bon, voyons donc, pour voir si ça se peut s'aimer comme ça. Puis là, elle m'a dit, écoute bien ma fille, là. Oui, ça se peut. Parce que moi puis ton père, c'est comme ça qu'on s'est aimé, puis c'est comme ça qu'on a fait nos 12 enfants. C'est exactement les paroles qu'elle m'a dit, ma mère.
Notre invité, Francine Laplante, tatouée sur le cœur. Je vais prendre des raccourcis un peu. Je le disais tantôt, vous êtes allé au marché Jean Talon, vous avez rencontré votre mari.
Oui.
Arrive le premier enfant, ça n'a pas été facile. Vous étiez jeune.
On était...
Grossesse difficile, pas accouchement difficile.
Grossesse difficile, accouchement difficile. François-Carl n'était pas... il n'était pas prévu. C'était pas prévu dans les annales, mais pas prévu du tout. Moi, j'avais toujours eu dans la tête d'adopter, M. Arcand. Moi, la grossesse et tout ça, c'était pas que j'avais, tu sais, mais c'était dans ma tête, j'étais pour adopter des enfants. Puis François-Carl est arrivé un cheveu sur la soupe. Puis je le dis souvent, il aime pas ça quand je dis ça, là, que j'ai pas été la mère exemplaire, là. Tu sais, moi, François-Carl.
Pourquoi vous dites ça?
À 2 semaines, il se faisait garder par ma sœur, sa marraine. À 2 semaines, je suis retournée au travail. Je savais pas quoi faire avec un bébé. Je me souviens, M. Arcand, le matin que j'ai accouché de mon fils, là, j'avais accouché la nuit, le matin, à 5h30, le mari de ma sœur aînée est arrivé dans l'eau, à l'hôpital, puis il m'a dit, j'aimerais ça que tu lui donnes mon nom parce que je vais le protéger toute ma vie. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, qu'est-ce que maman va faire avec toi? J'ai aucune idée comment m'occuper d'un bébé. Et ça a été un peu l'histoire de ça. Puis donc, quand la maladie est arrivée en 98, alors qu'il avait 5 ans, un gros sentiment de culpabilité m'a envahi.
C'est un diagnostic de cancer.
Un cancer assez sévère, un lymphome lymphoblastique de stade 3 avancé.
Puis à quel âge?
5 ans. Il y a 5 ans et 4 mois. 4 ou 5 mois, en pleine crise du verglas. Donc, tu te demandes, c'est-tu le verglas, c'est-tu une bronchite, c'est-tu... Puis nous, on était la seule maison à la rive sud qui avait l'électricité. Puis, parce qu'on avait des entrepôts pleins de clémentines du Maroc, fait qu'on avait l'électricité, fait qu'on on servait un peu de centre communautaire. Puis François-Carl, il toussait, mais tu t'imagines pas, quand il tousse, que tu l'emmènes pas à l'hôpital, dire, faites des tests parce que je pense qu'il y a un cancer, là. C'est pas moins que ça marche, là. Et puis, sauf que nous, c'est ça qui est arrivé.
Avec les visites à répétition à l'hôpital, les traitements, puis tout ça, et quand vous avez eu le diagnostic, vous dites dans le livre, bon, évidemment, vous étiez bouleversé, c'est sûr, là, ouais. Mais vous êtes dit, si jamais il survit, je prends le langage.
J'ai fait plus que ça, M. Arcand. Je savais pas, quand il nous a annoncé le diagnostic le lundi, c'était le 1er février, il faisait, là, je vais extrapoler, là, peut-être moins 400 dehors. Tu sais, il faisait froid, là. C'était cru, comme dirait ma défunte mère. Puis j'ai sorti d'un porte de l'hôpital Sainte-Justine. J'avais pas de souliers d'un pied. Je me suis effondrée devant les portes. Puis moi, je suis croyante, là, mais pas aller à la messe à tous les dimanches, puis m'asseoir. Puis comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai fait un pacte avec la vie. J'ai dit, tu redonnes la santé à mon fils, puis je consacre le reste de ma vie à essayer d'amoindrir la souffrance des enfants.
C'est ce que vous avez fait?
C'est ce que j'ai fait.
Vous avez accompagné des enfants?
Oui, j'ai accompagné des enfants en fin de vie. Au mois de juillet, j'ai perdu ma 46e. Ça, c'est quand je dis perdu ma 40e, c'est ceux que j'ai accompagnés vraiment dans la mort. Les autres, ben avec les fondations que j'ai mises sur pied, c'est de l'accompagnement parfois financier, psychologique, des textos à 3h30 du matin. Je développe beaucoup de relations. J'ai un franc-parler, je suis reconnue pour avoir un franc-parler, je suis reconnue pour dire des niaiseries, pour être capable de désamorcer les crises. Puis la vie a respecté notre pacte jusqu'ici parce que François Carl va se marier l'année prochaine, il y a 28 ans.
Et vous avez adopté d'autres enfants?
J'ai adopté 4 enfants. Avant que François Carl tombe malade, on avait un enfant. On a adopté en 97 un enfant. Le 28 mars, je vais vous donner chronologie parce que vous allez comprendre l'importance. 28 mars 97, on a adopté un enfant, Charles-Alexis. Il avait 17 mois, il pesait 11 livres. Donc, c'était comme vous voyez dans les... Comme vous voyez dans les messages d'un enfant, il y avait la gale, il y avait tout ce que vous voulez. On l'a sauvé une extrémiste. Au mois de mai de la même année, l'association avec laquelle on avait fait affaire nous appelle pour nous dire « Comment ça va, Francine, avec Charles-Alexis? Ça va bien? » Mais écoute, nous autres, on sait que tu as une grosse famille. On a un enfant qu'on vient de trouver dans le champ. Il avait 3 ans et demi.
En Haïti.
En Haïti. Puis M. Arcan, c'était un 10 mai, il faisait soleil, le soleil rentrait dans mon bureau. Elle dit, on sait que tu as une grosse famille, tu connaîtrais-tu quelqu'un qui le prendrait? Je l'ai mis sur garde, je suis allée dans l'entrepôt, j'ai dit à mon amoureux, c'est Brigitte d'accueillir un enfant. Là, il m'a dit, c'est quoi, Charles, est-ce correct, nos papiers avec Charles? Oui, oui, c'est parce qu'il y a un autre enfant là-bas. Là, il me regarde et dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai dit, ça veut dire que le soleil rentre. Il nous appelle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Puis quand je suis revenue, j'ai dit, on a trouvé une famille, ça va être nous autres. On a tout recommencé, parce qu'il faut comprendre que tu recommences à zéro, là, comme si tu n'avais jamais adopté. Et Louis-Thomas est arrivé le 28 mars 98, un mois après le diagnostic de François Carl. Il avait 4 ans et demi, il ne parlait pas un mot français. Il n'avait jamais habité dans une famille.
Pour quelqu'un qui m'a dit tantôt qu'il ne savait pas quoi faire avec des enfants, là, des bébés, là. Vous avez appris sur le tas? Oui,
ouais. Mais vous savez quoi, M. Arcan, j'ai jamais... Moi, je me considère encore souvent. Même hier soir, c'est à la fête de mon grand Charles, puis je disais, je sais que j'ai pas été une bonne mère. Moi, c'était... Je me suis pas posé de questions. Quand les gars sont arrivés dans notre vie, c'est... On vit une crise, on va là, toi, tu vas à la garderie, toi, tu vas là, toi, tu fais ça. Je me suis pas trop épanchée sur... leurs difficultés psychologiques, leurs difficultés d'apprentissage, là. Comment dois-je leur faire accepter? Là? C'était, on embarque dans une famille. Toi, ton nom maintenant, c'est Louis-Thomas Viau. Toi, c'est Charles-Alexis Viau. Toi, c'est Lionel Viau. Toi, c'est Rose-Emmanuel Viau. On forme une famille, puis on regarde en avant. J'ai toujours refusé d'embarquer dans des groupes d'aide pour... Pas des groupes d'aide, de solidarité pour parents adoptants, ou enfants adoptés. Parce que moi, je me disais, en les emmenant ici, il faut qu'ils prennent la culture d'ici. Puis c'est comme ça qu'il faut que ça marche.
Êtes-vous fatiguée?
Présentement, je vous dirais que... Moi, je suis un peu comme Dominique Michel. Vous savez quoi? Parce qu'à chaque fois que j'accompagne un enfant, je dis que c'est le dernier. La dernière que j'ai perdue au mois de juillet, j'ai trouvé ça très difficile. Sauf que quand j'en rencontre un autre, je tombe en amour. Puis faut que ça clique, là. Ça clique entre les deux. Mm-hmm. Vous savez ce que je suis fatiguée, M. Arcan, c'est quand que les gens trouvent ça surnaturel, ce que je fais, puis qu'ils me disent, qu'ils doutent de mes choix, qu'ils doutent de mes actes. Ça commence à me rentrer dedans un peu.
Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'ils doutent de vos actes?
Dans le sens que, vous savez, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, ou Né pour vivre... Il y a des chartes. Puis des chartes, c'est fait pour être respecté selon le gouvernement. C'est pour la recherche. C'est pour l'aide financière aux enfants atteints de cancer. J'ai toujours refusé. J'ai toujours accepté de donner à manger à un enfant, même s'il n'était pas atteint de cancer. J'ai jamais été capable de dire non. Maladie orpheline... je donne souvent un exemple. À un moment donné, je suis sur la route puis j'entends qu'un jeune Haïtien s'est fait lutter à Montréal-Nord. Puis les parents n'avaient pas dans... Il n'y avait pas d'argent pour l'enterrer, M. Arcan, là. Je n'étais pas capable. Je l'ai, on l'a enterré. Ça ne fait pas partie de la charte du tout. Vous comprenez ce que je veux dire, donc? Et le concept qui ressort de tout ça, quand vous me dites « Est-ce que tu es fatiguée? » Je ne suis pas fatiguée de faire ce que je fais. Je ne suis pas fatiguée de quêter parce que je suis la plus grande quêteuse professionnelle au monde. Puis que même, tu sais... Mais je peux être tannée des fois de me faire challenger sur des choses comme ça.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir, monsieur.
Francine Laplante, tatouée sur le cœur, préface de Guy Laliberté. C'est publié aux éditions de L'Homme. On fait la pause, 9h40, on revient après pour la tribune téléphonique.